est sur cette paracha.
Et il est vrai que Yeshua, Mashiach, avait un cycle et que cela a été déterminé. Par exemple, chacun des enseignements de Yeshua n'est pas du tout donné dans le hasard, il est donné dans le cadre des parachutes. Il est donné dans un cadre très précis. Les paraboles s'encadrent parfaitement dans une lignée dans l'évangile de Marc. Et on peut remonter toute la chronologie et établir les moments clés. Et que ce n'est pas un jour, Yeshua se lève et puis dit « Ah, mais aujourd'hui, ben voilà, je vais parler sur la parabole du figuier. Tiens, on va trouver un figuier par là. On va le maudire et puis on va tirer un petit truc là-dessus. » Et pas du tout. Il y avait une construction et tout est construit dans la pensée d'Israël sur le cycle que l'Éternel a donné, le cycle du temps. Alors, c'est vrai que, Yitro, j'aimerais revenir sur un certain nombre de choses parce que je crois que ça va éclairer et bénir nos vies, nos cœurs et notre peuple Israël. Avant d'entrer dans Yitro, qui est dans le chapitre 18 notamment, j'aimerais faire juste un petit récapitulatif de ce qui était avant. Parce qu'avant d'arriver à Yitro, il y a un cheminement. On n'arrive pas dans la paracha Yitro sans avoir passé par Bereshit, sans avoir commencé par le premier chapitre du livre des Shemot, de l'Exode, hein, traduit faussement d'ailleurs, et de continuer cette orientation dans l'histoire du peuple d'Israël, enfin des Juifs de l'époque, des Hébreux pour être plus exact, et de ce peuple qui était tenu dans l'esclavage, et donc ceci nous amène à ce que nous avions vu la dernière fois dans la paracha Béchala, qui a marqué la déchirure du temps. Et que cette déchirure du temps, dans l'incarnation de Dieu, dans l'histoire des hommes, de la dimension de ce qui est éternel, qui va heurter la temporalité des hommes, et en quelque sorte la finalité de l'histoire humaine, eh bien, se réalise dans ce qui est éternel. Et quand on voit que c'est au travers de la rédemption, de la Géoula, comme nous disons aussi, de notre délivrance, parce que tout est lié à deux choses dans le peuple d'Israël. L'exil, la diaspora, l'errance dans les nations. Deuxième élément, c'est le rassemblement. Mais le rassemblement, pourquoi? Le retour, pourquoi? Pour être justement dans la délivrance et établir le malchut, le royaume de Dieu, donc, la rédemption. Voilà comment nous devons comprendre toute ces parachas, autrement l'appel même d'Abraham, ou le fait qu'Abraham quitte Galilée n'aurait aucun sens s'il n'y avait que pour sa propre vie, que pour lui-même, que pour sa famille, une histoire. Mais il faut aller au-delà du visible et entrer dans tout ce que le peuple d'Israël a pu voir à ce moment-là. De leur point de départ, ils ont vu tout ce qui allait venir. Donc Béchala nous a introduit dans ce passage où la déchirure du temps a lieu par le passage de la mer Rouge, le fait que cette mer n'obéit pas à une loi naturelle quand elle s'ouvre. Et il y a quelque chose qui nous démontre qu'un chemin, un passage s'est ouvert. Et donc ce passage de la mer Rouge, c'est ce qui va conclure. Et ça c'est fondamental parce que Pessah, la fête de Pessah, le 14 de Nissan, va marquer dans un premier temps la délivrance de l'esclavage, de la servitude de Pharaon, afin qu'il quitte l'Égypte pour aller dans le pays que Dieu avait promis aux pères, à nos patriarches, de donner aux générations futures. Et donc, Pessah va marquer le calendrier, va marquer l'histoire humaine, va marquer aussi le cycle du temps. Pessah deviendra non seulement le premier jour du premier mois de l'existence finalement de cette rédemption, de cette délivrance, et le premier jour de Pessah, et nous savons tous que la fête de Pessah, l'Éternel a dit qu'à un moment donné, elle devait durer 7 jours. Et le 7e jour, c'est Béchala. Le 7e jour tombe sur la paracha Béchala, qui est l'ouverture de la mer Rouge. Le premier jour, c'est la délivrance de l'Égypte. Le 7e jour, c'est la délivrance totale des Égyptiens. C'est la différence entre la libération de l'esclavage et le fait de ne plus avoir quelqu'un qui nous remettra dans l'esclavage. et la libération de l'Égypte. Et ce septième jour est scellé par cette délivrance. Donc Béchala peut se conclure par deux choses. Premièrement, vous ne reverrez plus l'Égypte. Vous ne reverrez plus l'Égypte. La deuxième, c'est la délivrance finale de l'esclavage qui sera marquée par, justement, le Messie qui deviendra le roi à Jérusalem, de la descendance, de la postérité de David. Il sera le fils de David, le Mashiach, qui régnera alors que toutes les nations voudront nous remettre le joug de l'esclavage, alors qu'à un moment donné, tout est en train de se préparer pour qu'il y ait une destruction d'Israël. On commence par l'antisémitisme, des caricatures, on commence par des petites agressions, et on va aller en augmentant, en faisant remarquer et sentir que le juif est devenu indésirable, qu'il n'est pas quelqu'un d'acceptable dans leur nation. Et les pays également, sur le plan politique, préparent de manière plus tellement cachée aujourd'hui, on va dire, préparent la manière dont progressivement ils vont vouloir rayer Israël de l'existence du monde. Mais voilà, et nous nous trouvons aujourd'hui, des millénaires après cette période, nous nous trouvons dans quelque chose qui est similaire dans une autre époque, dans un autre phénomène. Et nous attendons quoi ? Mashiach. Et jamais l'intensité n'a été aussi grande dans la ferveur et la foi d'Israël pour prier de manière internationale, pour dire que le Messie vienne et qu'il établisse le Malchut. Il y a quelques mois en arrière, tous les rabbins ont fait appel, prière 24 heures sur 24, étude de la Torah 24 heures sur 24, de façon à enseigner pour que le Messie vienne, pour préparer ce temps, parce qu'ils sont conscients du temps présent. Et ce qui est fondamental, c'est de réaliser que justement, eh bien, il y a une attente, une espérance messianique, il y a une attente de la délivrance maintenant. Nous n'attendons plus simplement le fait de sortir de l'exil et de revenir sur notre terre d'Israël. Nous attendons le royaume. Nous attendons le Malchut à Elohim. Nous attendons le règne du Messie qui établira la délivrance totale et finale. Alors nous avons pu voir que la sortie d'Égypte est en fait relatée par trois parachas. Je le dis pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, de façon à ne pas perdre le fil non plus, conducteur de tout ça. Donc on a vu dans la paracha Vaera, il y a eu sept plaies. Sept plaies. Pourquoi pas dix plaies ? Sept. Et dans une autre paracha, celle que nous avons appelée Bo, les trois dernières plaies d'Égypte, avec la mort des premiers-nés, et l'institution de Pessah, dans la nuit. Et on aurait pu mettre avec Yeshua le parallèle dans la nuit où il fut livré. Béchala, la dernière, c'est la délivrance de l'Égypte. Et lorsque nous regardons Nachon ben Aminada, qui veut dire la délivrance du passage par la mer Rouge, c'est ce que cela relate, la racine de Nachon a pour valeur numérique 358. Et vous savez ce que ça veut dire? C'est pourquoi le passage de la mer Rouge, quand on dit que Yeshua, il a inauguré une route nouvelle, vous savez, je ne sais pas comment les gens comprennent dans le côté imaginaire des choses. Mais dans l'hébreu, c'est du concret. C'est pas, et j'aime beaucoup la pensée de Maïmonide à ce niveau-là, on n'est pas dans la supposition, l'hypothèse des choses, on est dans la réalité des choses. Et lorsque nous parlons du Mashiach, il faut savoir que nous ne parlons pas simplement de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On parle de quelqu'un que nous connaissons. Et dans une vraie réalité. Et lorsque nous revenons à cette racine de Nachon, la valeur numérique de Nachon, c'est 358. 358, c'est la valeur numérique du terme Mashiach. Et pour rappel, j'aimerais dire que lorsque Mashiach est venu, il a déchiré le temps, il a déchiré les cieux, les Shamaïm d'en haut et les Shamaïm d'en bas. Et que les Shamaïm d'en haut, comme les Shamaïm d'en bas, ne l'ont pas gardé esclave ni captif, ni la mort, mais les remonter. Et il reviendra. Et il reviendra pour régner. Il ne reviendra pas pour sauver, pas pour discuter, parler doctrine. Hein? Aujourd'hui, ils aiment beaucoup ça. Il ne vient pas pour discuter. Il vient pour juger les nations. Un, juger toutes les nations. Juger les hommes. Il viendra établir son règne pour Israël et établira la paix, le shalom. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura le dernier événement, on va essayer de voir rapidement cela tout à l'heure, un événement futur qui nous attend. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui nous attend. Non pas de savoir ce qui s'est uniquement passé, mais de savoir ce qui nous attend pour savoir, un, comment faire la tefila aujourd'hui. Quand les nations prient pour Israël, ou lorsqu'elles engagent des temps, des conventions, des séminaires, pour prier pour Israël, j'ai toujours été étonné du contenu de la prière. Et je me suis dit, mais ils prient pour la politique d'Israël. Et nous savons que maintenant, à ma grande tristesse, Ariel Sharon est décédé. Quoi qu'on puisse dire de cet homme, il a marqué le temps. Et là, on sait qu'on est dans un changement de temps. Et qu'il va nous introduire dans quelque chose dont nous ne maîtrisons pas tout. Mais que nous savons. Et lorsque les nations prient pour Israël, que demandent-elles? Une meilleure politique, plus de justice avec les pays alentours, une meilleure protection, une destruction de ses ennemis. Prier pour que Mashiach vienne. Pas simplement pour quelque chose qui soit sympathique, qui soit le désir humain des cœurs, mais de l'accomplissement. Car les temps sont en train d'arriver à ce niveau-là. Alors, quand il est dit qu'il a traversé les cieux, c'est qu'il a traversé tous les niveaux. Et il nous est dit qu'il y a les sept niveaux dans le Talmud. Et il y a les sept niveaux qui sont en relation avec les sept cieux, les sept arbres qui forment l'identité d'Israël. Et les sept couleurs de l'arc-en-ciel de noir. Quand il a traversé les cieux, il a traversé toutes ces dimensions. Et il n'en a raté aucune. Et aucune n'a pu le garder captif. Et c'est pourquoi il y a quelque chose d'extraordinaire à retenir. C'est que maintenant, il est assis, il est là-haut, à la droite du Père, comme on a vu au travers du Yad et du Yod. Et il est le Yod. Et ça, même les rabbins sont très au clair. C'est ce qui nous conduit maintenant à Yitro. Alors, il y a cette route nouvelle dans laquelle le peuple qui était esclave va comprendre comment marcher dans la liberté. Comment être libéré d'un passé? Comment être libéré d'une condition de vécu? De quelque chose qui nous a maintenus dans l'enfermement intérieur, dans des cloisonnements de pensée, dans des désespoirs, dans des choses qui nous ont amenés à ne plus envisager le futur. Parfois, et à être dans une telle détresse qu'à un moment donné, on a l'impression que tout s'arrête et que rien n'a d'importance et que de toute façon, rien ne pourra nous sortir de cette situation. Et pourtant, toute la dimension de Mashiach, c'est de nous faire comprendre que là où il y a un désespoir, il y a l'espoir. Et c'est ça qui a animé Israël dans toute son histoire. À Tikva, l'espérance qui est liée pas simplement à un espoir qui est simplement une donnée humaine, mais l'espérance qui est liée aux promesses de l'accomplissement que Dieu a donné à nos pères et aux prophètes. Ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est provisoire, c'est du court terme. C'est quelque chose qu'on attend humainement. Mais l'espérance, la tikva d'Israël, ce n'est pas d'attendre quelque chose qui nous délivre humainement, c'est de comprendre que ce que Atikva va former en nous, c'est l'espérance messianique des prophètes, oui. L'attente du Messie, amen. La venue du royaume messianique, la venue du royaume à Jérusalem. Et c'est clair que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que, un, ils n'écoutent pas. Deux, parce que tout simplement, on veut être connecté à de l'émotion, à quelque chose qui nous fasse, qui nous berce. Mais ce qui nous délivre, ce n'est pas ce qui nous berce. Ce qui libère, c'est ce qui vient de émettre. Et qui nous sort de la mort. Parce que quand on inverse les mots de émettre, on amote. Et lorsque, quelque part, ce qui est vrai et réel n'est plus en nous, et qu'on entre dans le virtuel, qu'on entre dans toutes ces choses qui sont liées à l'imaginaire, elles nous amènent dans la mort. Parce qu'il n'y a pas de futur. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose derrière. C'est un mur où il n'y a rien derrière. On arrive au mur et puis terminé, c'est fini. Alors que Hatikva, il ouvre. Et l'espérance que l'Éternel met dans nos cœurs est de nous amener bien plus loin. Donc, on entre dans cet itinéraire nouvel. Et on voit bien que les Égyptiens ne sont plus. Il n'y a plus d'Égyptiens, c'est fini. Pharaon, bye bye. Est-ce qu'ils ont fini avec les problèmes? Ils commencent. Chaque fois que tu crois que tu as fini, tu recommences quelque chose. Alors moi, il y a des fois, j'ai dit à Hachem, j'ai dit, tu sais, tu ne pourrais pas arrêter de temps en temps une interruption. Ça ne ferait pas de mal, hein, tu sais. Seulement de temps en temps. De temps en temps. Du cool. Il me dit, non, il faut marcher. Le temps est court. Il faut y aller, il faut foncer. Il ne faut plus t'occuper de ça, 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 ça. Ça, c'est les choses inutiles. L'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel? Et c'est pourquoi, lorsqu'on commence à comprendre ce qui sera établi plus tard et qui continue d'être existant dans le peuple d'Israël, je ne parle pas seulement du passé, c'est le temps qui vient après Pessah et qui est le temps de l'Omer qui nous conduit à Shavuot, qui nous conduit à la deuxième fête de l'Éternel dans le cycle, qui nous conduit justement au don de la Torah, à ce temps où on passe beaucoup de temps dans l'étude, la nuit en prière, l'étude de la Torah. On est dans quelque chose de très concret. Shavuot, c'est pas simplement « Oh, je vais attendre l'Esprit ». Ah non, il est en retard. C'est l'étude de la Torah. Et ce que faisaient les disciples de Yeshua dans la chambre haute, c'était ça. Hein. Ils n'étaient pas là en train d'attendre une soucoupe volante. Ils attendaient, et la Ruach est venue. Le souffle divin a soufflé l'air nouvel, la dimension nouvelle qui allait toucher l'humanité, et plus seulement Israël. Et que Pessah allait aussi s'ouvrir pour ceux des nations qui sont esclaves du paganisme, qui étaient enfermés dans l'idolâtrie, qui n'auraient jamais pu connaître la dimension de la rédemption. Ils ne peuvent connaître, que ça plaise ou pas, et je l'ai dit hier à l'anthropologue, il était d'accord, ça lui a fait plaisir, moi ça m'a fait plaisir aussi, que ça lui fasse plaisir. Donc on s'est fait plaisir. Eh bien, c'était également de démontrer que c'est par Israël, le salut vient des Juifs. Le salut vient d'Israël. Le salut vient du Messie hébreu. Le salut ne vient pas d'un prédicateur revivaliste du XVIIIe siècle, ni de la Réforme, ni de Luther, ni de Calvin. Il vient de Yeshua à Mashiach. Et lorsque nous commençons à comprendre ça, c'est que, autant pour Israël, il y a eu une libération de l'esclavage, autant il y aura la libération de l'esclavage, de la culture de l'esclavage même, dans le monde on va dire païen, dans le monde qui ne connaissait pas l'Éternel, qui ne connaissait pas Dieu, eh bien, le salut va rentrer, va pénétrer également cette sphère qui était fermée. Et c'est à Shavuot que cela va se faire. Mais le temps de ce septième jour de Pessah, à Shavuot, il y a ce que nous appelons le temps de l'Omer qui va durer 50 jours. Et en même temps, cela nous amène maintenant un peu plus loin parce que c'est un itinéraire, mais c'est aussi un itinéraire afin d'éprouver nos cœurs de qu'on peut appeler dans l'hébreu, dans la pensée d'Israël, la sanctification du nom. Comment je vais sanctifier le nom de Dieu? Et comment je vais marcher dans cette délivrance de Pessah? Est-ce que finalement je vais aller me diriger sans but, dans le hasard, dans l'attente que quelque chose éventuellement de bien m'arrive dans un an, deux ans, dix ans, vingt ans, quelque chose que j'attendais depuis longtemps va se produire, se réaliser? Ce n'est pas dans cette perspective. Dieu les conduit. Il sait exactement l'itinéraire. Et il va les amener dans quelque chose qui est extraordinaire parce que cet itinéraire, c'est celui d'amener à connaître Dieu. Qui est le Dieu qui a fait sortir ces Hébreux d'Égypte? Qui est ce Dieu? Non pas les divinités. Qui est ce Dieu qui a Yod, He, Vav, He, Iye, Asher, Iye? Il est ce qu'il est. Je serai qui je serai. Qui est ce Dieu qui a voulu délivrer cette poignée d'hommes? C'est presque rien. Il y avait un peu plus de 5000 personnes. Qu'est-ce que ça représente sur la masse de l'univers? Pas grand-chose. Et pourtant, c'est cette masse-là que Dieu va conduire jusqu'au mont Sinaï. Et Dieu sait où il veut les amener. Dieu sait. Et il veut les faire passer justement dans la compréhension de basculer de la temporalité à ce qui est infini et éternel. Il veut leur démontrer que ce n'est pas uniquement une dimension dans le temporel, la vraie vie, mais c'est celle qui est en rapport avec l'éternité. Alors, on va lire un passage très étrange qui est dans Shemot, et on va arriver, vous verrez, on arrivera à Yitro. Au chapitre 13 des Shemot, il nous est dit, j'aurais pu le lire en hébreu, mais je ne sais plus si c'est le 7 ou le 17. Non, c'est le 17. Et c'est bien après après Hag HaMatzot, hein, après la fête des pains sans levain. Hein. Donc, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Hachem ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Ça, c'est pour en rajouter, si tu crois que c'est facile, des fois. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Et lui fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Donc on voit qu'il y a une chose étrange, une anomalie presque. Pourquoi ne pas prendre un chemin qui soit rapide et court, direct, et qui les aurait presque introduits directement dans le lieu? Quand vous regardez, c'était pas bien loin, hein, le pays des Philistins. C'est vers Gaza. C'est toute la bande. Ils étaient tout près. Ils étaient juste un tout petit peu plus bas. Et Dieu aurait pu... Et non, il était revenu en arrière. Contourner. L'Éternel qui avait délivré ce peuple des Égyptiens, de sa puissance, de sa force, même de tous ses pouvoirs occultes, même de tous ses pouvoirs surnaturels, ne pouvait-il pas vaincre les Philistins? Une question. Ou y avait-il quelque chose à apprendre? Certainement. Donc Dieu les conduit par ce chemin des Philistins. Et Philistinine veut dire aussi, et puis Philistine en hébreu, il a une racine. Et sa racine, la racine de Philistine, c'est Mefoular, qui veut dire l'errance. Dieu n'a pas voulu que le peuple d'Israël passe par le chemin qui les reconduirait à l'errance par la crainte. La crainte, regardez, aujourd'hui en psychologie c'est très fort, c'est l'angoisse, c'est l'appréhension du futur, c'est la peur du futur, c'est la peur d'exister demain. C'est la peur de ne pas pouvoir assumer son lendemain. C'est la peur, la difficulté de finalement se dire « mais je serai trop mal, je vais mourir, je ne vois pas, oh j'ai trop de problèmes ». Et aujourd'hui on voit que toute la culture et la mentalité des pays dits de consommation sont tenus par cet état de tristesse intense, cette déprime, ce côté où l'angoisse a augmenté. Et il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité autant de gens angoissés. Pour prendre le métro, les gens sont angoissés. Pour sortir dans la rue, ils sont angoissés. Pour passer des examens, ils sont angoissés. Quand est-ce que tu des angoisses? Et tu te dis à un moment donné, mais ils ne vivent plus, les gars. Et ils sont constamment... Et puis alors, dès qu'un problème arrive, comment je vais vivre? On est là, en train de s'inquiéter de tout, et on ne vit plus. Et même si on dit, le Seigneur m'a libéré, il est tout-puissant, d'un seul coup, t'es là. Et tu dis... C'est dangereux ce futur. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose que l'Éternel est en train d'ouvrir à nouveau dans cet itinéraire, c'est de nous reconduire à le connaître. D'apprendre à le connaître, et non pas de continuer dans une nouvelle forme d'esclavage, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit dans la psychologie de l'homme. Qu'elle soit dans quelque chose qui nous enferme dans nos émotions et nos sentiments, qui font que nous ratons notre futur. Que nous ratons le temps de notre existence dans l'accomplissement. Parce que nous refusons de prendre le chemin de Shavuot. Et ce que l'Ecclésia refuse aujourd'hui, c'est de revenir à Shavuot. Elle refuse de revenir à Shavuot, au lieu de la Torah. Et malheureusement, elle emprunte toutes sortes d'itinéraires qui détruisent plus l'identité qu'elle ne se construit. Et lorsque nous commençons à regarder un petit peu tout ça, on commence à voir qu'il y a quelque chose qui nous détruit. Alors, l'Éternel sait qu'à un moment donné, ces Hébreux n'arriveront pas à supporter la confrontation avec les Philistins, n'arriveront pas à être à la hauteur de ce combat. Alors, il va les prendre, les amener par un autre itinéraire pour qu'ils n'aient pas à affronter les Philistins, dont la divinité est Dagon, mais c'est normalement Dagan. Et Dagan, c'est quelque chose qui était le maître absolu de tout, de toute la contrée jusqu'en Syrie. Et c'était une divinité reconnue comme étant puissante. Et donc, à quelque part, ça nous amène à réaliser toutes ces dimensions. Et l'Éternel veut les conduire dans le pays de la promesse, mais avec un itinéraire et avec un but. Alors que très souvent, nous empruntons le chemin de l'errance dans nos vies. Nous sommes un peu dans l'errance, toujours à la recherche de quelque chose. Des fois, c'est la recherche de quelqu'un. Des fois, c'est la recherche de son accomplissement, du but de sa vie, de l'homme ou de la femme de sa vie. Ça peut être la Keïla idéale, la synagogue la plus parfaite avec le meilleur de tous les rabbins, le rabbin le plus grand de tous les temps. Vous savez, il y en a comme ça. Et on est toujours... L'errance est synonyme aussi de la recherche parce que c'est une quête de l'identité, de l'existence. Et tant qu'on n'a pas la conscience de la vie, eh bien, à ce moment-là, malheureusement, au lieu de prendre ce chemin qui peut-être est plus long et nous amène à contourner, eh bien nous allons rentrer dans la perte de l'identité. Nous allons rentrer dans la schizophrénie intérieure, spirituelle, voire intellectuelle, qui donne la confusion et on ne sait plus qui on est. Et alors on cherche, et alors on essaye d'exister par tous les moyens, par ce qui est matériel, par ce qui est intellectuel, au travers de toute la technologie. On essaye d'avoir quelque chose qui remplace l'éternité. On essaye de calmer le temporel en remplaçant toutes ces choses, en les mettant dans notre cœur. Et alors on se gave d'images, on se gave de paroles, on se gave de ceci, on se gave de cela. Et l'insatisfaction grandit, 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 grandit. On touche à tous les niveaux que l'on peut toucher aujourd'hui dans toutes les formes d'expression culturelle. Et l'insatisfaction grandit, 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 grandit. Et ceci nous amène justement maintenant à comprendre que l'Éternel ne veut pas qu'il passe par là. Il crée l'identité éternelle d'Israël. Il crée l'éternel, cette identité du combat de Yaakov qui devient Israël. qui lutte pour le Mashiach, pour la rédemption, pour le bien du monde. Pour le bien du monde. Voyez Israël d'une autre manière. Ne voyez plus Israël politique, mais voyez Israël qui va être celui qui combat aussi pour le bien du monde. Parce qu'il y a des choses qui arriveront bientôt. Et pour aller un petit peu plus loin, je crois que c'est très important de savoir où on va plutôt que de ne pas savoir où on va. Il y a des gens qui vont nulle part. Alors, il y en a qui me disent parfois, oui, c'est un peu mon ironie à moi, mais il y en a des fois qui me disent, je cherche. Et je dis, ça fait combien de temps? Oh là, ça fait longtemps. J'ai dit, c'est sûr que nulle part, peut-être que ça existe. Mais il faudrait peut-être que tu ailles à l'Est. Peut-être que là, nulle part, peut-être exister, tu t'y installeras. Je leur fais comprendre qu'à un moment donné, tu peux chercher toute ta vie et mourir sans avoir trouvé. Sans avoir été satisfait. Sans avoir accompli quoi que ce soit. Et celui qui marche en Dieu, et celui qui se rattache à Israël, il accomplit la venue du Mashiach. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, Yeshua a inauguré, comme on l'a vu, une route nouvelle. Et est-ce qu'il voudrait, lui, que nous passions par le chemin des Philistins? Il nous a conduits, comme les Talmidim, à Jérusalem, à la chambre haute, pour que la Torah s'inscrive dans le cœur, que les commandements soient présents, soient mémorisés, et non pas qu'on prenne Paul comme un opposant, non pas comme quelqu'un qui vient faire une différence entre la loi des Juifs et la grâce des nations. Mais que la loi et le règne est né dans la Torah. Amen. Grâce est née dans la Torah, amen, au travers de Moshe. Autrement, le mot grâce n'aurait jamais existé dans la Torah ni dans la Bible. Et ce qui veut dire que c'est justement sur la base de la faute d'Israël que Dieu pardonne. C'est la base même du pardon de Dieu, du règne, de l'existence de ce mot qui n'a pas existé durant toutes les périodes avant. Règne existe à cause de Moshe et d'Israël. Grâce existe à cause. Et il pardonne la faute du veau d'or. Et là, il y a des choses extraordinaires à retenir et il faut comprendre qu'il n'y a pas une opposition. Aucune, il y a un accomplissement. Et que malheureusement, on peut chercher, et dans l'Ecclésia, à créer son identité par les dons, par toutes sortes de pratiques, par toutes sortes d'émotions, mais l'identité est fictive, elle est virtuelle et elle n'est pas solide. Parce que dans le long terme, elle ne tient pas. Mais ce qui se construit dans la Torah, ce qui se construit à l'écoute du Mashiach, à l'écoute de Dieu, à l'écoute de nos maîtres et de nos sages, à l'écoute de l'héritage d'Israël, il construit son identité propre. Et le Beit, cette lettre, deuxième lettre de Bereshit, du commencement, cette lettre qui est aussi la maison, il construit non seulement sa maison aujourd'hui, il construit sa vie de famille, mais celle de son futur, et de toutes les générations futures, le Dor Vador, ce n'est pas quelque chose à négliger, parce que c'est une transmission, et c'est ce qu'Israël a reçu. Moïse a reçu, il donne, il transmet, il bâtit la maison du futur, il bâtit la maison du Mashiach, et il bâtit le royaume de Dieu qui est à venir. Alors, Yeshua nous amène justement dans Hébreux 10 à ce niveau-là, mais c'est dès que nous sommes nés de Dieu, comme dit Yohanan au chapitre 1, lorsque le Dabar est devenu existant dans la dimension humaine. À partir de là, il nous est dit que justement, oui, ceux qui ont cru à ce Dabar, à cette parole, ceux qui ont cru à la Torah messianique, à la Torah incarnée, ayant pour nom Yeshua, alors à ce moment-là, ils naissent de Dieu. Ils traversent les cieux. Ils passent des eaux d'en bas et ils vont dans les eaux d'en haut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que cet itinéraire dans lequel l'homme va rentrer, c'est comment je vais revêtir une nouvelle identité, non plus l'identité de la mort qui me conduit dans l'errance et dans le pays des Philistins, mais l'identité qui me construit dans mon futur, dans l'identité du Messie, dans l'identité du Mashiach qui vit en moi, du Mashiach qui est là, mais qui n'est pas là physiquement. Je n'ai pas l'image d'un homme avec une barbe ou sans barbe. J'ai Mashiach, le Ruach HaKodesh, la Shekhina. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Alors on revient, c'est que justement ce que nous appelons revêtir l'homme nouveau, c'est tout l'itinéraire. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment exactement, dans un certain nombre de milieux, on a appelé ça le salut. Mais ok, je crois que c'est très important de pouvoir aller dans cet itinéraire inauguré par Mashiach, qui nous montre non plus la route terrestre, mais la route céleste, la dimension de l'infini. Et c'est là que nous devons réaliser un certain nombre de choses. Donc, comprendre que tout est lié ici-bas au néant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avenir sur la terre. Il est bel et bien dit, vous savez, aujourd'hui, la Torah, hein, et on n'est pas les seuls, même les scientifiques s'en mêlent, pour dire que l'univers se détruit, qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, mais il y aura une dernière guerre. Et il y aura quelque chose qui mettra un terme à l'existence de l'univers. Pas simplement de vous, ou de vos petits-enfants, ou de mes petits-enfants, ou de nos futurs petits-enfants. Mais il y a quelque chose qui mettra un terme. Cet itinéraire-là, c'est l'errance. Et puis, il y a le fait de connaître justement cette dimension éternelle liée à la rédemption et de connaître progressivement quelque chose qui nous détache de ce niveau et qui nous construit dans quelque chose qui a l'identité du Messie. Alors Yitro nous conduit justement dans cette compréhension parce que, au travers de tout ce qu'a dit Leslie, et c'était très très bien, parce qu'il y a une chose qui est vraiment à comprendre. Lorsque nous parlons des 10 dvarim et des 10 commandements, c'est le fondement de l'univers. Ce n'est pas, c'est l'épine dorsale. D'ailleurs, nos sages le disent. Et ils disent, nos sages, que les 10 paroles qui ont été données au Sinaï, qui ont résonné de l'éternité dans le temporel, qui se sont écrites sur des tables de pierre, sur quelque chose de solide, qui normalement est indestructible, et bien que la Torah, c'est l'épine dorsale de la structure de l'univers. Et que c'est la structure de celui qui veut marcher dans les voies de Dieu. Parce que, mis à part les 10 commandements, quelles seraient les bases de toutes les nations pour savoir ce qui est bien et mal? Comment saurons-nous marcher dans les voies de Dieu? Tu crois dans le Nouveau Testament, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Comment? L'épine dorsale de la structure de l'univers, c'est que tout a été fait sur la parole qui vient d'en haut. Sur la parole qui a été donnée, qui a fait naître l'univers. Et l'univers naît avec des lois. Aucun élément de l'univers n'obéit à quelque chose d'indépendant de l'autre. Tout obéit à des lois. C'est ce qu'on appelle aussi les lois de la physique. Mais on va un tout petit peu plus loin. La racine du mot Torah, c'est ora'a. Et cela veut dire, plus que loi, commandement, parce que vous savez, il y en a beaucoup qui ont insisté là-dessus. Alors on va aller plus loin. La racine, la structure, l'épine dorsale spirituelle d'un être qui est né de Dieu, qui veut marcher dans la dimension du Seigneur et de son Messie et de son Dieu et du Dieu d'Israël, c'est quoi? C'est qu'il marche dans sa racine. Et sa racine veut dire enseignement. Ah, ce n'est pas des lois, c'est de l'enseignement. Dieu enseigne la terre qui est dans la mort depuis Adama, qui est dans la faute, dans la transgression, dans l'errance, dans la perte, qui est dans quelque chose où le mal augmente et où Dieu peut rétablir la bonté. Uniquement enseignement, pas loi ou commandement. Torah, ce n'est pas loi ou commandement, c'est enseignement. Et à partir de là, c'est que Dieu qui le donne, c'est que cela vient d'en haut, vient de l'invisible, vient pas du visible, vient pas d'un homme. C'est pas Moshe qui a gravé ces paroles. Alors, pour que nous soyons enseignés, éduqués dans les voies de Dieu, dans le but de le connaître. Et c'est pour ça que dans le judaïsme, on a la base la plus importante dans l'éducation d'un enfant, c'est l'enseignement. La manière dont on enseigne aux enfants, ils seront, ils deviendront. La manière dont vous vous comportez, dont vous parlez, la manière dont toutes les choses sont faites, la manière dont vous recevez l'enseignement détermine votre futur, le comportement, l'attitude, mais aussi la compréhension et la pratique. Elle ne se dissocie pas. On n'oublie pas l'enseignement. Proverbe 3 nous dit, par la sagesse du roi Shlomo, n'oublie pas les paroles gravelées à ton cou. Garde-les, c'est un enseignement pour la vie. Elles seront la couronne. Et non pas simplement des choses que l'on va commencer à faire à la grecque, à discuter. Et pourquoi et comment ? Eh bien, mets-toi à genoux et prie. Hein. Oh. Donc, l'enseignement est vrai, est délivré dans le cadre d'Israël sur 4 niveaux. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a quelque chose que j'aimerais maintenant orienter. Je ne sais pas si je vais tout prendre. J'aimerais arriver à un point essentiel quand même. Mais on va aller dans quelque chose que tu as soulevé tout à l'heure, et qui est très important, c'est le fait que Moshe, dans cet itinéraire, ne sait pas qu'il se rapproche même de l'Arabie Saoudite. Alors, vous voyez le détour ? Ce détour en arrière, c'est de les ramener vers l'Arabie Saoudite, alors qu'ils étaient dans, juste en quelques jours du lieu. Et il rencontre le prêtre de Madian. Et c'est vrai que le prêtre de Madian, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a un petit jeu de mots en hébreu. Et il dit qu'il a entendu, il entendit ou il entend. Les miracles, il entend ce que Dieu a fait. Il est prêtre de Madian. Il est l'un des plus hauts niveaux, comme tu l'as dit. Et c'est vrai, c'était l'un de ceux qui avait la maîtrise de toutes les divinités de toute la contrée. C'est-à-dire tous les niveaux d'occultisme, tous les niveaux de magie, de sorcellerie, tous les niveaux dont vous avez tous très peur, hein, beaucoup d'entre vous. Et lui, il avait le prêtre de Madian, c'est le beau-père de Moshe. Alors moi, je me suis dit, c'est compatible ou pas ça? Je me suis posé la question de manière rabbinique en disant, normalement, on ne doit pas accepter l'idolâtre. Il se marie avec la fille de celui qui est le plus idolâtre de la région. C'est quand même dingue ce truc. Et qu'on le veuille ou pas, tout à coup, l'Éternel fait éviter les Philistins et il l'amène à Madian. Et Madian, c'était quelque chose, parce que toute l'histoire que tu as mentionnée en récapitulant l'itinéraire de Moshe est extraordinaire. Et on voit bien qu'il y a ce passage de la mer Rouge que nous avons évoqué tout à l'heure, et qui est extraordinaire, et lui, dans tous ses pouvoirs, dans toutes ses forces, prend conscience que lui n'a pas cette autorité sur le temps. Il n'a pas l'autorité du cycle. Il est prêtre de Madian, il a certainement toute la maîtrise et la connaissance, mais il y a une chose qu'il n'a pas. Alors il entend ce Dieu qui a frappé l'Égypte, qui a ouvert la mer. Et il vient vers Moshe, pas parce que c'est son gendre, pas parce qu'il aime bien Moshe, pas parce qu'il trouve Moshe sympathique, ou qu'il a une grande réputation, que ça va lui rapporter de l'argent. Mais à cause d'un autre événement, et c'est celui-ci qui m'intéresse. L'autre événement, c'est celui d'Amalek, dans Shemot 14:14, il nous est dit qu'il a entendu qu'il y avait une guerre. Et là, on entre encore plus dans le mystère. Lorsqu'on le prend dans l'hébreu, on se dit, mais comment c'est possible? Je peux comprendre la réalité d'un combat physique, mais pas la réalité du combat dont on va parler. Il dit que dans Exode, au chapitre 17 et au verset 16 notamment, si vous voulez on peut le lire, hein, on va lire à partir du verset 15, « Moshe bâtit un autel et lui donna pour nom Adonai Nissi, l'Éternel est mon identité. La bannière, c'est mon identité, c'est celle qui s'inscrira dans tous les temps. Cet autel sur lequel Moshe va bâtir un nom en disant c'est celui de Dieu parce que l'Éternel est la bannière et c'est pour ça qu'on a un drapeau d'Israël, qu'on a le drapeau du lion de la tribu de Yehuda. Le blason de Yerushalayim est très clair et il est en rapport aussi avec ça d'ailleurs. L'Éternel Adonai Nissi, il dit parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel. C'est un peu mal traduit, mais bon, c'est pas grave. Il y aura guerre de l'Éternel. De Yod He Vav He. Il y aura la guerre de Dieu et non des hommes. Il y aura une guerre de Dieu, non des hommes, non de la politique humaine, non simplement liée à des frontières, à des disputes de territoire. Il y aura guerre entre deux noms, nous dit la Torah. Il y aura la guerre de l'Éternel de Yod-Heh-Vav-He, de celui qui est l'infini, éternel, contre Amalek. Amalek qui n'est pas seulement un peuple, c'est pas seulement un peuple, on va dire, aujourd'hui structuré de manière politique. Amalek, c'est une descendance. Amalek, c'est le petit-fils d'Ésav. C'est la descendance d'Édom. Il y aura une guerre de l'éternel, de l'infini, contre le temporel, contre les Édomites. Et Édom représente non seulement les nations, mais Rome. La puissance, la dynastie de Rome, elle représente la foi qui nous a amenés dans l'exil. Et il y a quelque chose qui se produit. Il y aura, à un moment donné, quelque chose qui mettra un terme à la guerre. Et il y aura le nom de l'Éternel qui combattra le nom d'Amalek. Et il nous est dit d'or va d'or, de génération en génération. C'est dire que ce sera infini, jusqu'au combat final. Et là, nous devons entrer justement dans toute cette dimension parce que Amalek nous amène à comprendre que c'est le règne de Dieu dont il est question là. Parce qu'Amalek a attaqué Israël, a attaqué les Hébreux qui sortaient, qui passaient par là, mais sans raison. Sans raison. Et il n'y a pas de motif à cette attaque. Aucun motif. Les Hébreux n'ont pas enfreint de frontières. Les Hébreux n'ont pas volé de la nourriture, piqué leurs femmes, n'ont pas volé, n'ont rien fait. Mais ils se font attaquer. Ils se font attaquer pour être détruits. Et tout à coup, on voit quelque chose qui là, surgit comme ça de nulle part. Alors, il y aura dans toutes les générations, y compris la nôtre, il n'y a pas une génération qui ne connaîtra pas Amalek. Pas une génération. Chaque génération aura son Amalek. Quel est le sens d'Amalek? La valeur numérique d'Amalek est à mettre en rapport avec la même valeur numérique que Safek, qui veut dire le doute, ce qui tue l'espérance, ce qui amène un tas de choses. Alors l'attaque d'Amalek, ce n'est pas simplement, c'est de déstabiliser cette confiance dans l'accomplissement du règne du Messie dans le futur. Il veut détruire la foi d'Israël. Antiochus Épiphane, César, ou les Romains, le christianisme dans sa chrétienté, toutes les nations, Hitler, jusqu'à il n'y a pas longtemps, de génération en génération. Savez-vous que Hitler dans ce qu'il a fait dans son génocide est lié à la fête de Pourim, à Amalek, la descendance de Haman. Aujourd'hui, nous avons notre Amalek au travers de l'Iran. Il y aura un Amalek dans chaque génération pour détruire le futur et surtout le règne du Messie. Mais Mashiach triomphera. Et c'est pourquoi nous devons comprendre. Donc le doute, on pourrait comprendre que c'est simplement quelque chose d'intellectuel, émotionnel, spirituel. Oh, je dois croire en Dieu plutôt qu'en Satan. Je dois croire. Il faut que je croie, il faut que j'ai la foi. Bien sûr que sans la foi, sans l'émouna, dans le futur, sans la compréhension, sans être enraciné dans la Torah, dans l'accomplissement du Malchut HaElohim, on est déstabilisé et on va se mettre à douter de tout. Et aujourd'hui, tout le monde doute de tout. Personne ne sait vraiment en quoi il croit. Il essaye de croire en quelque chose, mais il ne sait pas vraiment quoi. Alors il essaye, il va là, il écoute l'autre, il écoute là-bas, et il lit ça, il va sur Internet, et il surfe, il zappe, il machine. Et après, oulalalalala. Mais bon, c'est vrai que ce que Dieu veut faire, c'est détruire la confiance et la foi que nous avons aujourd'hui dans le présent, parce que c'est celle qui détruit Amalek dans le futur. C'est celle qui détruit Amalek dans le futur. Et c'est pourquoi nous devons bien comprendre que c'est Dieu qui lutte. Quand on va plus loin dans les passages ou avant, on voit que c'est Dieu qui dit « C'est moi qui lutte. Et vous garderez le silence. » Attends. Normalement, c'est l'homme qui doit combattre. Là, il dit « Non. C'est moi qui lutte. » Et là, nous voyons bien que c'est Dieu qui lutte contre Amalek. Et que ce n'est pas simplement le niveau du temporel et du physique ou d'un problème humain relationnel. Mais Amalek est aussi le signe, et écoutez bien là, est aussi le signe de ce qui se produira dans la guerre de Gog et Magog. Le combat final. Le combat justement où il y aura la résurrection de tous les morts. Le combat où il y aura la dernière attaque dans l'humanité. Avant que tout soit terminé, avant tout, avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ou un nouvel, pour être plus exact, un univers dans la rédemption, différent, renouvelé, reformé. Avant cela, il y aura guerre, de génération en génération. C'est pour ça que le peuple d'Israël, même dans ses téfilotes, prie, sachant que le provisoire est là, qu'aujourd'hui ça va bien, mais on sait que demain, ça n'ira pas bien. Même si on essaye de se rassurer, on sait que de toute façon, tant qu'on n'est pas sur la terre d'Israël, on est dans le provisoire, dans les nations. On sait que de toute façon, ce qu'on entend aujourd'hui, les agressions antisémites, verbales, même des églises, des pasteurs, même de beaucoup de gens qui devraient être dans une autre forme de prière, de bénédiction, d'amour, de soutien, où sont les Aaron et Our dans ce combat d'Amalek? Israël est seul? Où est l'Église? Où est l'Ecclésia? Où sont ces ministères dits remplis? Ces soi-disant puissants ministères qui n'ont de puissance que dans leur séduction, qui n'ont de puissance que dans l'approche charismatique verbale. Mais où est la vraie puissance? Celle qui ouvre la mer. Celle qui détruit Amalek. Celle qui met un terme, celle qui fait venir Mashiach. Ça, c'est la vraie puissance. Ce n'est pas simplement le folklore d'une adhésion à une forme, mais la gloire de ce royaume éternel. La gloire de ce lieu où le Mashiach règne déjà. Amalek nous démontre que ce n'est pas simplement un épisode dans le passé, c'est quelque chose qui va venir. Et je crois que c'est très important de comprendre que c'est ce que l'on veut dire et ce que Israël a très très bien compris d'ailleurs, le combat entre la lumière et les ténèbres. Alors, il y a un mot clé que l'on trouve dans la paracha de Yitro qui nous amène à réaliser qu'il y a le mot, et quand il a entendu, il vint, Yitro, ou bas, il vint. Il est venu se rattacher, lui, le puissant maître du panthéisme, du polythéisme, des pouvoirs occultes, il va les quitter. Et il va venir vers celui qui est le plus minoritaire de la terre, Moshé. Il va venir vers ceux qui sont les plus petits, ceux qui n'ont même rien, qui ne possèdent rien, mais qui se dirigent vers un accomplissement. Il entend, il voit le futur, il vient, il quitte la temporalité, la puissance du temporel, de tous les pouvoirs matériels dont les hommes dépendent aujourd'hui, qui est la catastrophe de l'économie. Parce que tout le monde a fondé ses espoirs sur l'économie. Eh oui, sur le virtuel des traders. Au royaume de Dieu. Aubin nous amène justement à comprendre qu'il vint et qu'il est associé au chiffre 10. Et c'est la même chose que Dvarim. Nous devons réaliser qu'à un moment donné, aujourd'hui, on veut détruire la foi d'Israël. Comme s'il y avait un autre Dieu supérieur qui ne serait pas le Dieu d'Israël. Quel serait l'autre Dieu que parfois j'entends dans vos bouches? Quel est le nom de l'autre Dieu que l'on fait croire comme supérieur et rejetant Israël peuple? Et en voulant le combattre en disant « Nous sommes Verus Israël, l'Israël de Dieu, le vrai Israël. Nous sommes le véritable peuple de l'élection. » Il faut. Aujourd'hui, c'est le temps des croyants, de l'Ecclésia, des théologiens et de tout ce que vous voulez, de quitter l'idolâtrie de Nicée, construite dans l'histoire de la haine et de l'antisémitisme. Qui a construit sur ce rejet du Dieu de l'Alliance d'Israël. Aujourd'hui, il est fondamental non plus de discuter simplement sur des affinités, mais sur du vrai, sur un terrain solide, non plus seulement des émotions qui vont t'amener au pays de nulle part. Et si tu as envie d'aller nulle part, va à nulle part, mais ne le cherche pas ici. Tu trouveras nulle part ici. Il est peut-être ailleurs, mais pas ici. C'est de construire réellement cela. Amalek veut détruire non seulement la foi d'Israël par le doute, c'est-à-dire que les églises n'ont pas besoin. Il y en a qui justifient ça hein, dans les ecclésias. Là, hein. Il y en a des pasteurs, même des croyants qui ne prient jamais, même pour Israël. Il y en a même qui sont ici. Je ne sais même pas si vous avez prié une fois dans la semaine pour Israël. Et vous voulez me faire croire que vous aimez Israël? Vous croyez qu'on est dupes? Que les Juifs sont des idiots? Qu'on est quelque part des ignorants du fonctionnement? Qu'on n'a rien compris? Que vous avez de la toute-puissance et que nous, on n'a rien? Et c'est quelque chose d'important de comprendre que Yitro a eu le courage d'être la vraie Ecclésia. Celle qui sort de son paganisme et qui s'enracine dans l'alliance d'Israël et du Dieu d'Israël. Qui s'enracine dans le devenir, dans l'accomplissement du peuple. Et qu'il ne crée pas une nouvelle identité qui se construit sur une autre forme de paganisme emprunté d'ailleurs. Qui vient d'une autre nation. Ce qu'a fait l'Ecclésia quand elle est sortie de son paganisme et qu'elle a connu au travers des Juifs et d'Israël, que ce soit par Paul ou que ce soit par Pierre, ou Réphins, Jacob, etc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été construire dans le paganisme, changer les fêtes. Elle nous a changé Pessah. Ce que l'on a vu tout à l'heure, vous n'êtes même plus dans le même accomplissement. Ils nous ont changé les dates. On n'est plus dans 14 de Nissan, dans le calendrier de Grégorien. On n'est même plus dans la fête de Shavuot, on est dans la Pentecôte. On monte et on descend. On a des hauts et des bas. On va de bas en haut et de haut en bas. Et donc, oui, c'est un peu ironique, je sais, veuillez me pardonner, mais c'est ma nature. J'ai dit à ma femme, j'arrive pas à me corriger, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est plus fort que moi. C'est viscéral, ce truc. Mais c'est plein d'amour, même si vous ne le voyez pas comme ça. Et donc, à un moment donné, ils quittent. Et ils vont. Parce que regardez dans le combat d'Amalek, Dieu lutte. C'est Yehoshua qui, dans la vallée, lutte. Mais c'est Moshe, soutenu par Aaron et Rouhour, qui sont soutenus. Qui soutiennent les bras de Moshe, qui prie, qui élève les mains à l'espérance. Et quand les mains sont levées, Israël va dans son accomplissement. Quand les mains sont fatiguées, parce que vous savez, le sang remonte, et normalement il aurait dû ne plus avoir de sang dans les membres. Ça aurait dû être des membres à amputer. Essayer de rester des heures sans baisser les bras. Le sang descend. Et vous n'imaginez pas la douleur en levant les mains. Vous croyez que c'était tellement magnifique. Essayez de tenir 2 heures, 3 heures, les mains levées. Moi, j'arrive pas. Et même si j'arrivais, je me dirais, mince, il faut lécher pour Bible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, il y a le combat d'Israël. C'est Israël qui porte le futur. C'est Israël qui est dans l'engagement de ce combat du Messie qui va établir son règne, qui va venir. Et les deux autres, c'est qui? N'est-ce pas l'Ecclésia qui devrait soutenir le combat d'Israël? Le bras levé. Hein? Parce que ce n'est pas l'Ecclésia qui réalisera le futur. Et je discutais avec mon épouse tout à l'heure. Mais ce qu'il faut comprendre, même si beaucoup n'y croient même plus, dans l'Ecclésia, ça c'est le doute d'Amalek qui est rentré dans la doctrine. C'est le doute d'Amalek qui a ôté, à force d'être déraciné, on a enlevé la substance, la racine, la nourriture du futur. Et on a amené la famine. Beaucoup ne croient même plus dans ce règne futur terrestre. 90% de l'Ecclésia aujourd'hui n'y croit pas. 90% de pasteurs, de théologiens que je connais, académiques, ne croient pas en cela. Le doute est venu. Nous ne croyons plus en ça. Nous croyons en la forme œcuménique, qui est la formation d'une église basée sur l'apostasie, celle qui a renié le plan de Dieu dans le futur et son accomplissement. Parce qu'elle a rejeté Israël et ses racines. Parce qu'Israël a des racines. Elle s'égare. Aaron et Hur représentent la dimension sacerdotale, mais à Hur, on voit que dans le futur, il a eu beaucoup de bénédictions. Et ce fameux film que nous connaissons tous, Judas Ben-Hur, est un des descendants. Et il a connu le salut en Yeshua. Donc, tout se retrouve dans les générations. Même celles que nous ne connaîtrons jamais. Mais tout se connaîtra. Et si on va plus loin, nous allons voir que lorsque l'Ecclésia ne prie plus avec Israël, qu'elle ne prie plus pour Israël. Elle prie pour quoi? Quels sont les sujets de prière de l'Ecclésia aujourd'hui? Je crois que les gens prient plus pour eux-mêmes que pour n'importe quoi d'autre. Mais bon, admettons, vous allez dans une réunion dite de prière. Vous priez pour quoi? Ah oui, pour qu'on évite de dormir. Ah oui, mais c'est mes trucs à moi. Mais ce qui est important, bien aimé, c'est de bien retenir que nous pouvons complètement bifurquer même le plan de la prière et le soutien qui devrait être accordé pour que l'accomplissement, pour que la bataille finale, pour que le triomphe du Messie sur Satan se fasse, pour que le mal soit détruit, pour que nous existions dans la résurrection. Car ce sera la dernière des résurrections. Et lieu. Et elle aura lieu. Mais peut-être pas pour certains. Certains d'entre vous, vous n'y serez peut-être pas. Parce que parfois faucheton. Parce que tricheur. Parce que hypocrite. Et il y a des choses que le royaume condamne. Et il y a des choses qui amènent la gloire. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, en tant que Rav, on amène la gloire. La gloire du Messie sur Israël. Et que on comprenne bien que, quelque part, c'est quand Yitro a entendu qu'il est venu. C'est quand l'Ecclésia entendra à nouveau le message d'Israël et des Juifs ou des Hébreux messianiques, véritablement ancrés, où son cœur sera dans l'écoute, qu'il deviendra le beau-père. Qu'il viendra et qu'il soutiendra, et qu'à ce moment-là, lorsqu'il y aura la guerre avec Amalek, lorsque Dieu combattra le mal, lorsque Dieu, corps à corps avec Satan, qu'il lira, à un moment donné, quand il sera relâché du millénium, de ses 1000 ans après le règne du Messie, il le détruira. Il le détruira. C'est dans ce cadre-là que nous devons venir. Lorsque nous voulons également voir une deuxième chose, c'est que le désir d'Amalek, ce n'est pas simplement de faire des blessés dans le peuple. Ce n'est pas de blesser le peuple, de le ralentir dans sa marche. C'est de le détruire, de l'exterminer. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous retrouvons la descendance d'Amalek dans deux endroits. Dans deux époques distinctes, différentes. La première, nous la trouvons en relation avec la fête de Pourim, que l'Église surtout passe sous silence. Ce n'est pas une fête écrite dans la Bible clairement. C'est le livre d'Esther, pour être clair.
Ouais, ouais.
Et en même temps, c'est l'une des plus belles choses qui puissent arriver, qui démontre la protection cachée même de Dieu, prêt à agir dès qu'il y a. Et on va trouver les mêmes phénomènes. Hein. Dans le cadre du livre d'Esther, de Hadassah, nous voyons qu'il y a un projet, un génocide en train de se préparer dans tout l'Empire par Aman, descendant d'Amalek. Aman déteste les Juifs. Il n'aime pas ce peuple. Il n'aime pas ces messianiques qui dérangent l'Église avec ses racines, qui revient à des choses qui dénoncent le concile de Nicée, les conciles de Chalcédoine, et les persécutions, et les fausses doctrines, et les fausses pratiques. On n'aime pas cela aujourd'hui. On n'aime pas ce qui est vrai, ce qui est clair, ce qui clarifie. On aime ce qui nous berce. Le nulle part. Hein? On aime bien les nulle part. Vous le retiendrez ça peut-être au moins. Vous savez, dans quelle église je dois aller? Mais nulle part. Et nous voyons bien que cette haine de Haman, c'est une haine qui remonte à Ésaü. À Édom. Il y aura toujours une haine des nations envers les Juifs. Hein, il ne faut pas rêver. Je ne crois pas à l'amour de toutes les nations. Croyez-moi. Croyez-moi. Mais d'autre part, je crois à l'accomplissement. Et je suis convaincu que comme Hadassah, alors que comme les enfants d'Israël, Dieu a combattu pour eux dans ce génocide préparé. Tout était prêt. À un jour près de l'échéance, tout bascule. À quelques heures près d'une échéance, tout bascule. Il n'y a personne. Il n'y a rien. Et tout est en train de se modifier. Parce que tout à coup, il y a un Mordechai. Et je veux être le Mordechai là, de l'Ecclésia aujourd'hui. Il y en a qui vont m'en vouloir. Hein. Oh, yeah. Mais je sais que il ne faut plus perdre son temps. Allez. Et je veux être celui qui est derrière Hadassah et qui va lui dire, alors, tu vas laisser périr les Juifs là dans la ville de Paris? Tu vas laisser l'antisémitisme augmenter sans prière, sans prendre sa défense, en allant chaque dimanche, alléluia. Hein? Ça, c'est nulle part. Et de ne pas s'occuper ou de s'occuper des démons qui t'ont visité il y a quelques heures. Et de tout faire, et toute ta prière du culte du dimanche, c'est oh, que je sois délivré de ces quelques virus. Et dehors, il y a des meurtres à Toulouse. Il y a des attentats qui étaient en train d'être faits. De Toulouse, maintenant, il y en a qui sont dans Al-Qaïda. Et on alimente. Et on est aveugle sur ce qui se passe de manière cachée, parce qu'il n'y a pas de révélation. Parce que quand vous ôtez Israël, il n'y a pas de révélation. Parce que quand vous n'êtes pas près d'Israël, vous ne pouvez pas voir clair sur ce qui est en train de se préparer. Et ce qu'il faut... Je sais qu'il y a beaucoup, non seulement de dénominations, d'églises, parfois des rabbins, des croyants, des chrétiens, même des gens de passage, qui peuvent ne pas m'aimer. Ne m'aimez pas. Pas besoin d'être aimé. Aimez Dieu.
Amen.
La vérité. Aimez Israël. Ayez un combat de la vérité, de l'amour du vrai.
Amen.
Pas de l'homme. On n'est pas dans les églises charismatoques. On n'est pas là pour idolâtrer, pour se faire la nouvelle identité spirituelle de Yitro, la nouvelle nation. On est là pour revenir au Sinaï.
Amen.
Et lorsque nous commençons à comprendre cela, Hadassah va décréter un vrai jeûne. Et ce jeûne, c'est comme cela que combat l'éternel Amalek dans les nations. Le jeûne, la prière, met en rapport avec Israël et ce que vit Israël et du projet des nations de destruction envers Israël. C'est ça. Et il n'y a pas si longtemps, le deuxième parallèle à faire, c'est celui d'Hitler, qui était le même. Et quand il y a eu le jugement de Nuremberg, j'en parle souvent à Pourim, et si vous achetez le Code secret d'Esther, qui est magnifique comme bouquin, qui démontre la gloire de Dieu, que tout est écrit à l'avance, que le hasard n'existe pas, et que si vous n'accordez aucune importance à la Shoah, je fais un séminaire sur la Shoah, il n'y a même pas le quart d'entre vous qui vient. Pourquoi? Parce que vous vous en foutez des Juifs qui meurent. Parce que vous n'en avez rien à faire de l'histoire de la Shoah. C'est ce que les nations disent. Les églises ne veulent même pas un séminaire qu'on parle sur l'antisémitisme. Elles ne veulent même pas qu'on parle de la Shoah. Elles nous mettent au même rang que... C'est une grande discussion, je ne sais pas si je le sors, allez, je le sors. Le code noir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça s'est passé en Europe, la Shoah. Et ce n'est pas des règlements de compte et de la colonisation. Ce n'est pas un territoire, un pays qui a été pris. C'est une extermination d'habitants, de citoyens français, allemands, européens, qui n'avaient rien à voir avec la possession d'un pays qu'on devait posséder pour ses richesses. Plus rien à voir. Ne mélangeons pas les histoires. Mais en même temps, je reconnais tout à fait l'analogie, la méchanceté de l'être humain. Et ce qui s'est passé durant la Shoah, dans la passivité pareille, c'est que lorsqu'on commence à parler de cet événement de l'histoire, on a tendance à l'oublier, on a tendance à le relativiser, à le négliger, à le mépriser en disant « ils ont tué Jésus après tout ». Et après tout, eh bien... c'était voulu, et puis après tout, ben voilà, ça s'est passé comme ça. Alors il y a eu quelques mouvements de teshuvot et qui essayent, mais quelque part, ce n'est pas ce que Dieu demande. C'est que Hitler avait l'idéologie d'Amalek. Et oui, il voulait établir un troisième Reich sur une race pure, une race remplaçante, un code génétique modifié, une identité, une ADN spirituelle différente. Il a voulu créer une race nouvelle d'hommes, ariennes. Et les ariens, ce n'est pas nouveau dans l'histoire. Oui, il y a les bons ariens et les rien à faire. Mais regardez, même Hitler, Le but final d'Hitler, c'était d'accélérer l'extermination juive dans les nations, dans l'Europe et dans le monde, pour être débarrassé. Mais est-ce que c'était simplement être débarrassé des hommes et des femmes ? C'était le Dieu d'Israël. Et Dieu l'a combattu. Alors, il en sera de même lors de la guerre de Gog et Magog, dans Apocalypse 20 et le verset 8. Toutes les nations, et écoutez bien, vous verrez l'analogie, ce qui est en train de se préparer par l'ONU, qui est Gog, ce qui est en train de se décider de viser Israël et de l'accuser d'être le peuple qui détruit, d'être un peuple, pardonnez-moi l'expression, mais un peuple bourreau, d'être un peuple qui, justement, touche la sentimentalité de beaucoup en disant « Oh, ils oppriment !» Bien sûr qu'il y a de l'injustice. Moi, je ne dis pas que tout est juste. Je ne suis pas obligatoirement d'accord à 100% pour tout. Mais je défends ce futur d'Israël, cet Eretz. Et quelque part, devons comprendre que Gog va s'associer à Magog et que c'est en train de se faire. Et quand on commence à identifier la géographie, parce que c'est ça que tu as fait aussi tout à l'heure, tu as démontré qu'à un moment donné, il y aura un rassemblement non pas d'une nation ou de l'Europe, mais de toutes les nations. Toutes les nations qui vont quoi ? Vouloir détruire tous les Juifs. Il y aura la détermination d'un projet, qu'elle vienne peu importe par quel faux prophète, peu importe par quelle entité politique, par quel biais. Nous savons que Gog, c'est Gimel, Vav, Gimel, avec le niveau de la séparation, et que Gog, c'est l'ONU. Nous le savons, et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire, même aux politiques. Et ils savent ce qu'ils préparent. Ne croyez pas qu'ils sont dans l'ignorance comme Haman, comme Hitler. Ils préparent à l'avance le futur de destruction. Et qu'il n'y a pas d'innocence. Si l'Église, les pasteurs, les théologiens maintiennent dans l'ignorance, ce n'est pas mon problème. C'est le leur. Mais votre problème, c'est de les écouter. Et c'est peut-être là qu'il faut changer. Il faut commencer peut-être à réagir. Et donc, le dernier point, c'est de comprendre justement que Hitler avait fixé cette destruction finale. Hein, il avait bien parlé comme ça. Oui. Et que même en sachant qu'il était vaincu, il a accéléré pour qu'il y en ait le maximum. C'est impensable. Je crois qu'il y a eu des croyants, des chrétiens, qui ont été des justes parmi les nations, qui ont sauvé des Juifs, qui ont pris le risque. Il y en a qui ont été même déportés. Il y a même des prêtres catholiques qui ont refusé cette politique, qui ont été emmenés dans les camps de concentration. Je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui auraient pris cette position pour des Juifs, ou un Juif comme moi, ou comme Martine, ou comme vous, ou comme Tal, ou comme d'autres. Je ne sais pas si vous seriez comme Pierre, regardant Yeshua à Golgotha, et dire, non, on n'a jamais rien eu à faire avec Israël et les Hébreux messianiques, on n'allait que pour chanter. Parce qu'on chantait en hébreu, c'était beau. De chanter dans la langue de ce Jésus. Mais le reste, oh là 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 là, on n'en veut pas. On n'est pas convaincu. Vous savez, je peux le comprendre. Je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas non plus. Je vous interpelle sur une réalité qui sera peut-être présente. Où on verra si ce n'est simplement qu'un vrai combat, ou si c'est une véritable identité, ou alors si c'est du folklore. Même de mettre la kippa, le talit, même de s'engager, on verra. Et quand les choses vont se préciser, justement rassembler pour combattre, détruire Amalek qui n'est rien d'autre que l'identité spirituelle de Satan, ni plus ni moins. Celui qui combat la promesse, l'histoire des âmes, c'est « mets dans ma gorge et je te vends le droit d'aînesse », c'est de retrouver le droit d'aînesse. Et c'est là qu'est né Verus Israël, hein. La véritable ecclésia, l'Israël selon Dieu. C'est là que les choses se sont bâties. C'est là que nous devons comprendre les origines de l'histoire. Et donc, à partir de là, bien-aimés, lorsque nous voyons cela, c'est maintenant qu'il faut avoir les mains levées. C'est maintenant qu'il faut avoir les mains levées. Ce n'est pas simplement de se rattacher à des racines, c'est de combattre dans les racines, pour les racines. C'est de combattre pour l'identité, pas la survie d'Israël, l'accomplissement du Messie qui vient, pour qu'il règne et qu'il mette un terme à tout ça. Peut-être vous n'y croyez pas, c'est possible. Notre temps, Yitro, représente l'Ecclésia qui ne doit plus être antisémite, mais qui quitte Madian. Au travers de deux armes, parce que c'est de génération en génération, si votre génération dans les églises, nous en tant qu'hébreux messianiques, ou en tant que membres du peuple d'Israël, nous ne combattons pas dans notre génération, nous donnons à l'ennemi la génération suivante. Nous donnons le pouvoir au mal de s'accomplir dans la génération suivante. Et le projet qui avait été initialement prévu il y a quelques années peut aboutir parce que nous avons laissé la possession du futur à cause de nous. Et ça, il faut en prendre conscience. Si nous ne prions pas aujourd'hui, même si la réalité n'est pas totale, même si elle n'est pas pleine, même si elle n'est pas totalement clarifiée, c'est maintenant que le combat commence. Il a déjà commencé depuis un moment. Mais que le combat doit s'intensifier et que c'est là où l'Ecclésia devrait revenir et prier plus et pas simplement s'égarer dans le nulle part. Ne sachant même pas où vous allez aller, il y en a qui me disent, ils ne savent même pas où ils vont. Enfin, j'ai dit, c'est grave. Hein. Donc, ne laissons pas la génération future. Ou alors, laissez-la, mais soyez clairs. Soyez des gens honnêtes. Ayez le courage d'être vrai dans votre antisémitisme. Ayez le courage d'être vrai dans vos positions. Si vous n'aimez pas Israël, un, tu n'as rien à faire ici. Deux, si tu n'aimes pas Israël et si tu ne veux pas combattre pour Israël, je ne vois pas quel témoin tu seras dehors. Et tu peux me trouver les excuses de ta peine personnelle, de tes problèmes, de tout un tas de choses, mais nous en avons tous. Mais il y a un futur qui ne s'embarrasse pas de ce genre de choses. C'est Satan. C'est la puissance des ténèbres qui grandit. Le mal grandit, la destruction grandit, l'arrogance grandit. Tout le monde se plaint de l'éducation et du comportement des enfants. Vous croyez que c'est simplement parce qu'on est dans la génération nucléaire ? Non. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les générations, on a abandonné, on a délaissé, on a laissé, et aujourd'hui, c'est la destruction des familles. Ni plus ni moins. Quand on revient à ça, je conclue. C'est la foi, l'émouna, qui détruira. Et lorsque l'Ecclésia se lève et quitte Madian pour être avec le peuple de la Torah, alors ces deux hommes qui soutiennent les bras de Moshe, le Mashiach, eh bien, ils gardent la confiance dans l'accomplissement. Et il y a quelque chose qui bouge parce que c'est la dimension du royaume éternel. Autrement, vous savez ce que, et ce sera vraiment ma conclusion, mais oh là, j'ai fait long. Mais je crois que c'est important que vous l'entendiez. Autant pour les Hébreux messianiques que pour tous ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, je ne veux pas vous vexer ni vous blesser. Mais je crois qu'il y a un moment donné où on est resté, nous, juifs, trop dans le silence. On nous a trop fermé le bec. On nous a trop dit, vous êtes de côté. Aujourd'hui, je l'ai dit à ma femme. Adroit ou maladroit, on y va. On y va. Et écoutez bien, c'est même pas moi qui le dis. Et là, j'en suis content parce que j'ai un bouc émissaire, une excuse valable. Et là, alors là, je me délecte. C'est Paul qui dit que dans les derniers temps, il y aura une église apostate. Vous savez ce que ça veut dire réellement dans la réalité ? Qui va renier. Non, non, la foi, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est, la foi ? Une église qui renie la foi, on ne sait pas ce que c'est. Si au moins elle reniait le concile de Nicée, ça, je serais content. Mais c'est même pas ça. Elle va renier son alliance avec le Dieu d'Israël pour rentrer dans l'église apostate, c'est-à-dire devenir apostasie. Devenir ce qui va combattre l'accomplissement de Dieu. Croyez-moi, ce qui se prépare depuis plusieurs années dans ces espèces de conciles œcuméniques, ces espèces de choses qui se produisent sous le couvert d'une puissance madianite, d'une puissance dite de l'esprit divine, il y a du vrai. Chez certains, il y a du vrai. Et j'y crois, la puissance de Dieu. Mais appelez-les comme ils s'appellent, don, et non pas charismatisme. Même si c'est une traduction grecque. Mais appelons-le selon la Torah. Manifestation divine. Et si nous refusons cela, si vous refusez même d'être un témoin dans votre assemblée, d'être un casse-pied envers ceux qui sont antisémites dans vos mouvements, et que vous ne les combattez pas, vous êtes semblable à un Mardoché qui ne parle pas, et qui laissera faire le mal, qui laissera grandir le mal, et vous en souffrirez, quoi qu'il en coûte. Mais vous laisserez faire. L'Église apostate des derniers temps, c'est son dernier parcours dans la génération que nous vivons. Elle a encore une possibilité. Les croyants ont encore la possibilité de quitter cette Église. De pouvoir sortir et de se rattacher. De s'identifier, de vivre dans quelque chose de vrai. Et pas dans la sentimentalité. Et de dire non, je ne veux pas que ceux qui connaîtront ma chiar aillent dans un lieu qui les conduit à la ruine et à la mort. Et je crois que si vous ne priez pas pour Israël, ayez au moins la pensée de prier qu'il y a les deux bras de Moshe et il y a Israël dans son combat futur et l'apostasie de l'Ecclésia. Parallèle dans les temps de la fin. Et que si chacun des croyants ne fait que critiquer, parler en mal, être dans le lachonara, ce qui est contraire à notre pratique, eh bien vous n'avez rien construit. Vous avez construit le nulle part de chez nulle part. 23 rues de nulle part. Ben oui, il y a des rues comme ça. Les avenues. L'impasse de nulle part. Et il y a ceux qui vont dire « je veux l'Ecclésia purifiée ». Une ecclésia dans la teshuva, qui reconnaît l'histoire, le mal, la passivité vis-à-vis des Juifs et d'Israël. Mais je veux aussi quelque chose qui rétablisse l'identité spirituelle de l'ecclésia. Quelque chose qui rétablisse réellement. Et à partir de là, il y a un nouveau combat. Que Dieu vous bénisse, pardonnez-moi, j'ai fait un peu plus long. Mais je voudrais vraiment vous bénir. Et en même temps, c'est un itinéraire, c'est clair. Mais si nous voulons être les amis d'Israël, pas des copains d'Israël, pas des touristes uniquement, mais de ceux qui s'enracinent dans l'identité spirituelle d'Israël, alors à ce moment-là, moi je vous invite de tout mon cœur à la tefila, à la prière pour Israël. Pas simplement à prier pour je ne sais pas quoi, mais sachez prier pour le futur.